Merci beaucoup, Elodie. D'abord, je voudrais commencer par remercier Elodie et remercier Denis particulièrement pour leur hospitalité, d'autant qu'on a dû changer l'horaire pour que je puisse participer. Je m'en excuse, j'avais cours juste avant. Je suis très honoré de participer à ce séminaire, en très bonne compagnie. Et je dois dire que pour moi, c'est effectivement une occasion importante parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que le sujet du conflit des facultés m'intéresse. J'ai passé toute ma vie professionnelle en fait à essayer de le naviguer et c'est vrai que ça me passionne. Alors, je vais présenter effectivement une lecture de ce que je comprends comme étant le conflit des facultés, le texte de Kant, une lecture politique. Et ce que j'entends par là, c'est que je ne vais pas être tellement guidé par la recherche à tout prix d'une cohérence systématique de la pensée de Kant. Je vais plutôt chercher quelque chose comme une cohérence, effectivement, non pas au niveau de la systématicité conceptuelle, plutôt comme la réalisation d'un projet que je comprends comme à la fois épistémique et politique. Donc je vais commencer, en fait, c'est presque le cœur de mon intervention, par resituer le texte du conflit des facultés dans ce que je comprends être le projet politique de Kant. Et de ce point de vue-là, je pense que, vu de ce projet, le texte du conflit des facultés peut être lu de manière intéressante. Bon, je suis tellement pas le premier à avoir essayé de le lire, et puis des gens autrement plus sérieux que moi s'y sont attelés avant. Ce qui est vrai, c'est que il est d'une extrême difficulté. Tout le monde a déjà souligné que les parties apparaissent comme disjointes. Ça rend très difficile de comprendre la question à laquelle ça répond. Et donc, en fait, je vais m'attacher à essayer de commencer par poser une des questions, évidemment pas la seule sans doute, à laquelle ce projet répond. Donc, d'abord, je commence par ce que j'appelle le projet kantien dans le texte que j'ai fait circuler. Et évidemment, je vais être infiniment trop rapide. Ça va ressembler à du résumé un peu fait à la hache. Mais j'espère qu'on aura le temps de discuter plus avant après mon intervention. Donc l'idée, c'est encore autre chose que je n'ai pas inventé. La deuxième partie du XVIIIe siècle est le moment d'une crise d'autorité, qui se traduit par le fait qu'un peu partout en Europe occidentale, il y a un phénomène de perte de foi dans la légitimité des autorités instituées, des traditions héritées. Évidemment, la question religieuse est centrale, mais pas seulement, les institutions politiques et la tradition juridique occidentale. De ce point de vue-là, d'ailleurs, le texte de Kant, Qu'est-ce que les Lumières, fait œuvre de manifeste de cette perte de foi. Alors, l'idée qui va me guider, c'est que Kant, un, prend acte de cette crise d'autorité, ne cherche pas à sauver ce qu'il y aurait à sauver, mais au contraire, à refonder toute notre manière de penser et d'agir autour de ce qu'on pourrait appeler le principe de l'autonomie. Une autonomie est comprise comme individuelle et collective, comme autonomie du penser et de l'agir, et une refondation qui ne peut s'opérer que dans la sortie des traditions héritées, particulièrement, mais pas seulement, la tradition juridique occidentale. Ici, le mot sortie renvoie évidemment au commentaire que Foucault fait du texte Qu'est-ce que les Lumières? Alors, à ces choses très générales, j'ajoute trois précisions. D'abord, je pense que la notion d'autonomie chez Kant est souvent mal comprise, pas tellement en France d'ailleurs, plutôt aux États-Unis, parce que en fait, je n'arrive pas à la concevoir comme l'autonomie comprise comme autodétermination, que ce soit celle comprise comme non-interférence ou que ce soit celle comprise comme non-domination. Alors oui, c'est une tarte à la crème du débat dans la philosophie politique contemporaine, l'autonomie libérale, l'autonomie républicaine. Moi, j'ai l'impression que l'autonomie kantienne, elle parle en fait un peu d'autre chose. D'une part, elle prend en charge les interférences constantes entre les individus, donc l'idée de non-interférence, c'est pas tellement ce qui intéresse Kant. Et d'autre part, le point de départ est toujours une situation de domination, et il n'est pas sûr que l'autonomie nous sorte des rapports de domination, donc c'est pas du tout de l'autonomie comme non-domination non plus, c'est plutôt quelque chose comme une capacité d'auto-indétermination. C'est-à-dire l'idée qu'on peut toujours décider de ne pas se soumettre aux déterminations qui nous dominent. Voilà, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le projet de Kant me semble pas complètement isolé dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène plus général qu'on a appelé la radicalisation des Lumières. J'entends le terme pas du tout, enfin pas tellement dans le sens que Jonathan Israel a donné au terme. Il y a un très beau bouquin qui s'appelle « Les Lumières radicales », mais lui, il identifie la radicalisation des Lumières à la tradition néo-spinoziste, et je pense que c'est très étroit comme définition. Et il me semble que ce projet kantien que je vais décrire présente comme un air de famille avec d'autres démarches de penseurs qui par ailleurs sont très très différents et souvent qu'on oppose à Kant, je pense à Bentham par exemple. Et il me semble aussi qu'on peut tracer cette radicalisation dans l'œuvre même de Kant. Alors ça, je ne suis vraiment pas le premier à l'avoir dit, mais il y a peut-être effectivement quelque chose qui se passe dans la troisième critique qui n'est pas tout à fait ce qui se joue dans les deux premières, ça c'est la thèse de Deleuze. Et ce qui me semble aussi certain, c'est que les textes tardifs font visiblement écho à un projet un petit peu différent. Ce n'est pas les trois critiques. Et il me semble que là, il y a une radicalisation politique, que cette radicalisation politique, elle a tout à voir avec le fait que de la Révolution française, c'est-à-dire que Kant éprouve de l'enthousiasme au spectacle de cette révolution qui commence en 1790, et la manière dont il écrit après n'est pas tout à fait la même. Donc c'est à mon avis, ce qui m'intéresse, parce que tout le monde discute beaucoup de ça, c'est de savoir si c'est une inflexion ou une rupture. Moi, ça, c'est pas ça qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse, c'est que le texte du conflit des facultés me semble être le moment où il cherche à ressaisir la radicalisation de sa pensée lui-même. C'est-à-dire le moment où il cherche à penser cette inflexion ou rupture dans son propre travail. Voilà, dernier point, je pense que là où ça nous intéresse, parce que quand même on parle du conflit des facultés, on parle de droit et de philosophie, c'est que le projet de refondation par le principe d'autonomie est un projet de sortie de la tradition juridique occidentale. Ça veut dire que c'est un projet pour le droit. Ça veut dire que Kant cherche à mettre en place une manière très nouvelle, ou en tout cas assez originale, de penser et de faire du droit, qu'il comprend explicitement comme une rupture avec la manière dont ça se faisait avant. Voilà, donc ça c'était pour introduire mon propos. Ceux qui ont vu le texte que j'ai fait circuler savent que j'essaye de définir ce projet autour de quatre gestes théoriques que je vais maintenant développer. Le premier consiste à élever le libre et public usage de la raison au rang de savoir architectonique, c'est-à-dire de décréter la souveraineté de la philosophie sur toutes les pensées et les actions humaines. Alors ici, il faut faire attention, la philosophie, ce n'est pas une discipline, c'est le libre et public usage de la raison, compris comme usage de la faculté universelle de raisonner, qui ne s'autorise que de la raison elle-même, c'est-à-dire qui n'accepte de se soumettre qu'aux règles conçues et énoncées par la raison elle-même. Une raison souveraine qui est à la fois législative et qui dispose en outre de la compétence de sa compétence. Mais on reviendra là-dessus, il n'y a évidemment pas que les philosophes de profession qui font ça. Le deuxième geste théorique me semble être le prolongement du premier sur le terrain des savoirs appliqués et plus précisément sur le terrain des savoirs de gouvernement. Et ça va conduire Kant à refonder entièrement le dispositif des savoirs du droit. Alors je vais développer ce point un petit peu plus longuement parce que là, on commence à se rapprocher du conflit des facultés lui-même. Dans la tradition juridique occidentale, là, je vous renvoie aux travaux de Harold Berman, parce que moi-même, je n'y connais rien et que je, peut-être à tort, lui fais confiance. La science du droit est comprise comme une science qui est elle-même juridique, c'est-à-dire interne au droit, faite par des juristes et qui, par suite, est une partie constitutive du droit lui-même, compris comme totalité organique vivante. Alors, ce n'est pas un détail, parce que c'est précisément ce qui permet au droit, compris comme totalité organique vivante, de prétendre à l'autonomie. C'est en effet parce que le droit pense et qu'il se pense lui-même qu'il est en position d'énoncer les principes généraux de justice qui vont guider son évolution. Et c'est parce que ces principes généraux sont eux-mêmes déduits du droit existant que cette évolution peut être continue et harmonieuse comme il convient à une totalité organique vivante. Donc le caractère interne de la science du droit, c'est la clé du dispositif qui garantit l'autonomie du développement du droit. Et c'est très précisément ça que Kant va chercher à démanteler. Donc dans le célèbre paragraphe A, enfin célèbre, je ne sais même pas s'il est célèbre, disons célèbre chez les kantiens, paragraphe A de l'introduction de la doctrine du droit, il établit une nouvelle division du travail au sein des savoirs du droit. Donc la science juridique traditionnelle, la jurisprudentia, elle va avoir pour objet de systématiser le droit positif, avec ou sans sans, elle sera une iuris scientia, avec, elle sera une jurisprudentia complète, la connaissance des modalités de son application. Mais désormais, la détermination des principes de justice qui doivent guider l'évolution du droit relève d'un autre savoir qui est philosophique et pas juridique. C'est le savoir des principes immuables, valables pour toute législation positive. Alors bon, à l'époque, on appelait ça la science de la législation, et là, je regarde Denis, bien sûr, et aujourd'hui, on parlerait de théorie de la justice, quelque chose comme ça. Alors, ce qui est important, c'est que ce savoir de gouvernement, il est extérieur au droit lui-même, c'est un savoir du dehors, et donc désormais, le dispositif des savoirs du droit va se trouver fragmenté. La philosophie parle des principes et elle parle de l'avenir, la science juridique, elle parle des règles existantes, passées, présentes, et éventuellement de leur mise en œuvre concrète quand elle devient expertise. Donc là, il me semble qu'on assiste à l'acte de naissance du conflit des facultés. Et ce geste théorique a au moins trois conséquences politiques importantes. La première, c'est que désormais, la critique est inscrite dans la structure même de la production du droit. Il y a désormais une place légitime, nécessaire, pour la production de nouveaux savoirs de gouvernement dans la production du droit. En l'espèce, ce nouveau savoir de gouvernement, c'est la déduction philosophique des principes de justice qui va déterminer la réforme législative. Donc le développement du droit ne se laisse plus déduire de son évolution interne, organique, mais de l'extérieur. Et ça fait écho à qu'est-ce que les Lumières. On peut oser dire ce qu'on pense du droit, même si on n'est pas juriste, en fait. C'est ça que ça dit aussi. La deuxième conséquence, c'est que la détermination des principes de justice, non seulement elle guide l'évolution du droit, mais elle le font d'une manière nouvelle, de manière complètement indifférente à la réalité du droit existant. Il suffit d'avoir ouvert la doctrine du droit pour se rendre compte que ça n'intéresse pas du tout le droit positif en Prusse à l'époque, Kant. Pourquoi ? Parce que ces principes, ils se déduisent de la raison pure. C'est de la déduction transcendantale et ça se déduit du concept pur de droit. Donc, on n'a pas besoin de la connaissance du droit positif et on n'a pas besoin de la tradition juridique occidentale non plus. Il n'y a pas besoin d'avoir lu Bartol ou de connaître le Corpus Juris Civilis pour faire ça. Et on n'a pas non plus besoin de la volonté du gouvernement. Donc, le droit à venir ne se déduit ni du droit présent, ni de l'herméneutique traditionnelle. Bon. On saurait mieux dire la destitution de l'autorité et du droit en vigueur et de sa science. C'est-à-dire, c'est une double destitution qui permet de penser ce que la tradition juridique rendait en fait impensable, un développement discontinu du droit. C'est-à-dire, en un mot, il est parfaitement possible de briser la chaîne des temps du droit et de rendre, au moins en théorie, pensable une révolution juridique. Aucun problème avec le fait de faire une législation nouvelle qui n'aurait aucun rapport avec la législation existante ou ancienne. Alors la troisième conséquence, et plus directement politique encore, c'est que le prince éclairé, quand il va légiférer, la question c'est de savoir de qui il va s'entourer, qui va le conseiller. Et l'idée ici, c'est qu'il devrait se dépêcher de changer de conseiller. C'est-à-dire plutôt que de s'appuyer, comme il le fait ordinairement, sur des légistes, désormais il devrait écouter des philosophes, c'est-à-dire des penseurs libres, pas des philosophes professionnels. Enfin, pas seulement des philosophes professionnels. Autrement dit, ici, le conflit des facultés n'est pas seulement un conflit épistémique dont l'enjeu serait de savoir comment mieux penser le droit, c'est un conflit qui est directement politique, et l'enjeu, c'est de savoir qui doit être assis dans le cockpit pour piloter l'évolution du droit. Bon, mais évidemment, pour que tout ça se réalise, il faut qu'il y ait un prince éclairé, et donc pour qu'un prince éclairé soit possible, la question c'est de savoir comment doit être constitué ce prince en sorte qu'il soit éclairé. Et ça, c'est le troisième geste politique. Alors ça, c'est déjà beaucoup plus connu, parce que c'est vraiment le cœur de la théorie politique de Kant, c'est l'ensemble de la mécanique constitutionnelle. Ce que je comprends de cette mécanique, c'est que tout le but, c'est de politiser la source du droit. Et donc c'est sous cette rubrique-là que je vais le présenter très vite, en disant d'abord, l'État doit être doté d'une constitution, ce qui veut dire que tous les organes souverains de l'État sont des organes juridiques, qui trouvent leur fondement et leurs limites dans le droit public. Ça, c'est la critique de l'État patrimonial. C'est-à-dire qu'on ne peut pas hériter de l'État comme d'une chose privée. Bon, la deuxième chose, c'est que la communauté politique, c'est-à-dire les membres de l'association, en tant qu'ils sont constitués en peuple, est le seul détenteur légitime de la souveraineté. Et donc, c'est la volonté unifiée du peuple qui est la seule source légitime de toute règle de droit. Et on ne peut pas être soumis à une règle qui ne serait pas l'expression de cette volonté unifiée. C'est ça que j'appelle la politisation de la source du droit. Et la forme que prend cette volonté, c'est celle d'une législation codifiée qui est produite par le seul organe véritablement souverain dans l'État, c'est-à-dire l'Assemblée délibérative des représentants élus du peuple. La forme légiscentriste ici de l'État répond à la difficulté considérable de savoir comment une volonté politique pourrait se manifester de manière rationnelle. Oh ben, parce qu'on sait qu'en général, la volonté du peuple, ce n'est pas toujours rationnel. Alors, la solution ici, c'est assez clair, c'est que la volonté politique unifiée du peuple, elle doit être rationalisée par la science de la législation, qui est la science comprise comme une branche appliquée de la philosophie. Et c'est cette rationalisation qui permet d'énoncer un système juridique cohérent et complet sous la forme d'une législation codifiée. Voilà, donc ici, ce qui est important de souligner, c'est que la dite science de la législation, elle, non seulement elle n'est pas l'œuvre de philosophes professionnels seulement, à commencer par Kant lui-même, mais en fait, elle est l'œuvre de tous les citoyens qui sont susceptibles d'user librement et publiquement de leur raison. C'est-à-dire, en fait, elle est l'œuvre d'une opinion publique éclairée. Et c'est pourquoi il est essentiel que le pouvoir législatif soit donné à une assemblée de représentants élus, parce que ces représentants doivent pouvoir émaner de cette opinion publique éclairée. Bon, alors, pour présenter le projet autrement, on pourrait dire qu'au binôme prince héréditaire légiste, Kant se propose de substituer un nouveau binôme représentant élu, opinion publique éclairée. Alors, évidemment, cette formule pose beaucoup de problèmes et il y a plusieurs bibliothèques qui en traitent, l'un étant évidemment la question de la distinction de la citoyenneté active et de la citoyenneté passive et de la réservation des privilèges politiques. Droit de vote, éligibilité aux seuls membres de l'association qui sont indépendants, ce qui exclut les salariés, les domestiques et les femmes, c'est-à-dire plus de la majorité quand même. Donc ce que Kant entend par indépendant n'est pas complètement clair, ça divise les commentateurs. Il y en a qui disent que en fait on n'est pas indépendant quand on est soumis à des rapports de subordination dans la sphère privée, d'autres qu'en fait c'est un problème de moyens d'accéder aux lumières publiques. Bon, il y a une chose qui est certaine, c'est que ça se termine par la réservation des droits politiques aux seuls propriétaires. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'on voit la logique. La logique, c'est que pour que s'opère la formalisation de la volonté souveraine en une législation codifiée, il faut que l'opinion publique soit éclairée. Et pour que l'opinion publique soit éclairée, il faut que ceux qui constituent l'opinion publique, les citoyens actifs, soient éclairés, ou soient susceptibles d'éclairage, si j'ose dire. Donc par suite, il faut que les membres de l'association soient ceux qui sont capables d'accéder à ces lumières et d'en user de manière indépendante. Voilà. Alors, je veux juste terminer ce point en disant que ici, le droit fonctionne comme un système d'encodage et de décodage de la volonté politique souveraine. C'est-à-dire que à la source, on met de la volonté, et puis alors la législation va encoder cette volonté, et puis alors ensuite, elle va descendre tout au long du système juridique pour à la fin tomber dans les cas d'espèce qui sont soumis aux administrateurs et aux juges, et tout le problème va être de faire en sorte que ce soit la même volonté qui se retrouve à la base, qui soit décodée en bas, si j'ose dire, que la volonté qui a été encodée en haut. Alors ça, c'est le quatrième geste théorique, c'est que pour que la plomberie puisse être neutre, eh ben, il va falloir neutraliser le fonctionnement du droit. Autrement dit, il va falloir neutraliser ou encore dépolitiser les agents qui sont en charge du fonctionnement du droit. Et ici, l'idée, c'est quoi? C'est que si les bureaux et les juges peuvent être source du droit, par exemple en substituant leur volonté à celle du législateur dans le processus d'application des règles, ben c'est l'ensemble du dispositif politique qui va se retrouver corrompu et on n'aura pas une formulation d'autonomie politique où les assujettis sont aussi les souverains, on aura un système dans lequel des bureaux et des juges gouverneront. Donc pour que la volonté générale soit correctement décodée à la base, il faut à la fois désubjectiviser et dépolitiser les agents en charge du droit. C'est une lutte à la fois contre les caprices des juges et à la fois contre les préjugés de leur corporation. C'est des idées qui nous sont très familières, mais enfin, je pense qu'à la fin du XVIIIe siècle en Prusse, ce n'était pas tout à fait évident et ce n'était pas comme ça que ça se passait. Alors, Kant pense pouvoir y parvenir, comment ? La première chose, c'est l'étatisation, c'est-à-dire transformer tout ce monde-là en fonctionnaire de l'État, donc soumis au pouvoir hiérarchique de l'exécutif. Ça donne un moyen extérieur de discipline qui n'est pas insignifiant. Mais le problème, c'est que ça ne suffit pas. Il faut encore gouverner la manière dont ces gens-là pensent, dont ces gens-là raisonnent quand ils prennent des décisions. Et donc, il faut contrôler leur pensée, en fait. Et il faut leur imposer, ça on connaît, un certain mode de raisonnement qui va garantir que c'est toujours la législation codifiée là-haut qui va se trouver applicable dans chaque cas d'espèce, c'est la déduction syllogistique dont la loi sera la majeure. Alors concrètement, la loi et la majeure, ça suppose que le juge soit capable de la connaître, il faut quand même qu'il sache lire les codes, et puis la qualification juridique des faits va servir le mineur, et ça suppose un peu d'expérience professionnelle, parce que c'est pas simple toujours de démêler ce qui est en jeu juridiquement dans un cas d'espèce, et la conclusion pourra être plus ou moins mécaniquement déduite. Et Kant estime que le dispositif est le seul qui soit à même de garantir l'objectivité des jugements judiciaires, ou encore le décodage objectif de la volonté unifiée du peuple, qui est encodé dans le texte législatif. C'est pour ça qu'il parle du juge comme d'un ouvrier agile. Et c'est un ouvrier parce que la connaissance de la législation relève plutôt de, ça, tout ça relève plutôt des arts mécaniques que des arts libéraux, en fait. Ça demande pas tellement qu'on pense, ça demande pas tellement de, si, ça demande de penser, mais ça demande pas de créativité. Ça demande juste un bon tour de main, disons. Voilà. Donc, moi, il me semble que c'est une manière d'exprimer très poliment une véritable entreprise de destitution intellectuelle et politique des professions juridiques, quand même. C'est-à-dire que parler d'ouvrier agile, enfin, je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemblait un parlement d'ancien régime, mais le fait de se faire traiter d'ouvrier agile, je doute que ça puisse en quelque manière leur plaire. Alors, pour résumer, à la politisation de la source du droit correspond la neutralisation ou encore la dépolitisation de son application. Donc, il y a une figure un peu chiasmatique, là. C'est pour Kant, l'autonomie de la communauté politique, ça passe nécessairement par l'hétéronomisation du droit. C'est-à-dire la conception et la réalisation et le fonctionnement d'un droit complètement hétéronome, où c'est la volonté du peuple qui met du contenu là-haut et où tout le problème, c'est de garantir que le contenu ne se perde pas. Tout ça me semble désigner quelque chose comme une structure qui est à la fois épistémique et politique, et je pense qu'on ne peut pas dissocier les deux premiers moments des deux derniers, dans lequel la pensée libre, émancipée de la tutelle des autorités et des dogmes, est souveraine, elle est donc législative, elle détermine les principes de justice qui guident la législation nouvelle. Cette législation nouvelle, elle est susceptible d'être promulguée par le binôme représentant élu opinion publique éclairée, qui est l'opérateur de la formalisation de ces principes dans une législation codifiée et dont l'application exige la destitution intellectuelle et politique des juges, et plus généralement des juristes. Donc là, je pense qu'on a quelque chose qui ressemble à un projet politique, effectivement, pour le droit. Ah, évidemment, ça ne va pas sans tension, sans ambivalence et sans contradiction. Dans le texte que je vous ai fait circuler, j'en énonce quelques-unes. Comment concilier le devoir d'obéir avec l'enthousiasme révolutionnaire, la tarte à la crème de la philosophie politique kantienne? Qu'est-ce que c'est que ces principes de justice qui sont immuables et comment vous conciliez ça avec l'idée d'un progrès de la raison publique et d'un développement de l'opinion publique éclairée? Ou encore, qu'est-ce que vous faites de l'universalité de la promesse d'émancipation qui est quand même très explicite dans un texte comme Qu'est-ce que les Lumières? Et comment vous conciliez ça avec les réservations des droits politiques aux seuls propriétaires? Bon, tout ça sont les ponts aux ânes, si j'ose dire, mais sans mépris, parce que c'est vraiment des questions importantes du commentaire de Kantien. Alors, il y a une chose, c'est que j'ai l'impression que toutes ces contradictions, tensions, elles mettent en œuvre une espèce de face-à-face entre deux Kant. Il y a le douanier de l'esprit, vous voyez, le républicain conservateur, le réformateur très prudent, enfai, pour citer Tony Negri, celui dont on peut régler sa montre en fonction de l'heure à laquelle il fait ses promenades. Et puis l'autre qui serait beaucoup plus radical, qui serait un démocrate complet, pour citer un de ses étudiants. Révolutionnaire et autrement plus imaginatif sur le plan philosophique. Alors, moi, quand j'ai des problèmes de lecture en philosophie politique allemande, ma maxime personnelle, c'est d'aller lire ce que raconte Catherine Colliot-Hélène. Donc, j'ai mis en œuvre cette maxime et je suis allé voir ce que Catherine disait dans La démocratie sans démos et bien m'en a pris parce que elle suggère une manière de comprendre et d'articuler cette tension en disant qu'en fait, il ne se passe pas la même chose au niveau de la théorie politique, la doctrine du droit, etc., puisque dans la théorie politique règne la nécessité de jugement objectif, donc déterminé, et dans la théorie métapolitique, c'est-à-dire principalement dans la philosophie de l'histoire, où là, c'est plutôt le libre jeu des facultés qui légifère. Et que par suite, les enthousiasmes du Kant démocrate, disons, vous voyez, le Kant chevelu, viennent hanter la théorie politique du Kant douanier, un peu comme un retour d'Urfoulé. Alors ça m'a beaucoup plu d'abord parce que j'ai des appétences avec la psychanalyse, et puis j'ai trouvé intéressant de chercher à comprendre ces tensions plus comme des ambivalences que comme des contradictions. Et l'ambivalence qui m'intéresse le plus ici, c'est qu'il est clair qu'il y a un lien de fait entre la capacité politique, l'indépendance dans la sphère privée et la capacité à faire un libre et public usage de la raison. Si vous faites si vous faites des projets politiques et que vous dites qu'il faut donner les droits politiques à tout le monde, vous ne pouvez pas, quand même pas ignorer que vous parlez dans une société où 80% des gens ne savent pas lire. Et vous voyez, ça rend difficile le fait de parler d'une opinion publique éclairée qui serait universelle. Et de fait, effectivement, comme Kant le dit dans le Conflit des facultés, le peuple est ignorant, c'est-à-dire il ne sait pas lire, en fait. Et il n'est pas seulement ignorant, il est généralement aussi soumis dans la sphère privée à son mari, à son patron ou aux deux. Et donc, on voit bien pourquoi la citoyenneté active est restreinte à la sphère de ceux qui sont assez indépendants pour devenir des lettrés, en fait, c'est-à-dire les propriétaires. Mais effectivement, ça pose un très gros problème politique, qui est, d'une part, comment vous conciliez ça avec l'universalité du devoir d'émancipation tel qu'il est énoncé par le texte Qu'est-ce que les Lumières? Et puis, surtout, comment vous pouvez concevoir une république oligarchique, pour le dire, une république propriétaire, va être en fait le véhicule de l'émancipation du plus grand nombre? Ça, c'est difficile à concevoir. C'est-à-dire, on se demande un peu comment ça fonctionne dans la tête de Kant, de ce point de vue-là. Et on ne voit pas très bien comment la république de propriétaires pourrait être émancipateur pour les ignorants et les dominés, particulièrement pour les femmes, les domestiques et les salariés. Alors voilà, là je pense qu'il y a une question, une question difficile, et que la réponse à cette question, elle se trouve peut-être dans le conflit des facultés, le texte, je veux dire, sous la forme d'un projet dans le projet. Et le projet dans le projet, ce serait quelque chose comme émanciper progressivement le peuple par la critique des canons de l'instruction populaire. Bon, je dis ça comme ça, je me suis, enfin bon, ouais, c'est à l'oral, hein, mais voilà. Donc l'idée, ce serait que on pourrait peut-être essayer graduellement, progressivement, d'émanciper l'éducation des élites, des lettrés, et de changer les canons de l'instruction populaire en introduisant un conflit des facultés au sein de l'université. Alors ici, ce que je comprends, c'est que Kant veut établir les conditions institutionnelles de la diffusion graduelle et progressive des lumières publiques dans la population, en sorte que cette population, dont l'immense majorité est ignorante et complètement incapable de jouer le rôle politique que Kant lui assigne, en fait, dans l'État bien ordonné, devienne cette force politique émancipatrice, devienne cette espèce de sujet historique émancipateur que l'opinion publique éclairée est censée devenir dans l'État bien ordonné. Alors, pourquoi est-ce que la majorité du peuple est maintenue dans un état de minorité? D'une part, par les rapports de subordination dans la sphère privée, les femmes sont soumises à leur mari, les salariés sont soumises à sont soumis à leur patron et les domestiques généralement aux deux, et aussi parce qu'il est ignorant. Et pourquoi est-ce qu'il est ignorant? C'est pas seulement parce qu'il est subordonné. Il y a des femmes qui sont instruites, par exemple, encore qu'elles soient subordonnées à leur mari. Et c'est pas non plus parce que personne n'a jamais songé à les instruire. C'est plutôt parce que la finalité du système de l'instruction populaire n'est pas d'apprendre à penser librement, mais de perpétuer la foi dans les dogmes officiels. Donc il faudrait donc, pour sortir graduellement, partiellement, le peuple de son état d'ignorance, établir un dispositif institutionnel qui permette au moins à ceux qui sont assez indépendants, au moins à ceux qui sont susceptibles de s'indépendantiser plus, qui ne sont pas trop soumis, quoi. Donc essayer de rendre possible le fait qu'ils de mieux s'instruire. Donc, me semble-t-il, le projet vise d'une part l'éducation des lettrés à l'université et d'autre part la transformation de l'instruction populaire en dehors de l'université. Alors, c'est un dispositif institutionnel, commençons par le décrire. Ça se passe tout au sommet, là-haut, là-haut, comme souvent chez Kant, ça commence de la manière la plus théorique, dans la distinction de deux sortes de penseurs libres. Il y a les savants corporatifs de la faculté inférieure, la faculté de philosophie, qui sont libres. Et il y a les amateurs qui exercent dans les salons et dans les académies. Donc il y a un aspect public et un aspect privé à ça. Du point de vue privé, du point de vue de la société civile, ça se passe plutôt bien. Parce que les penseurs libres amateurs, ben, ils éclairent leur public, et leur public, c'est les lettrés amateurs. Donc on est dans les salons, on est dans les académies. Alors vous avez tous ces amateurs qui produisent des idées nouvelles, très très bien. Et vous avez tout ce public qui reçoit ça et qui se cultive et qui s'émancipe, tout va très bien. Là, il y a une courroie de transmission des savoirs, si j'ose dire, qui fonctionne plutôt pas mal. Le problème, c'est dans le système d'éducation et d'instruction, ce problème, c'est dans l'État. Et au sommet de ce système, il y a les universités. Et là, il y a un problème, c'est que les facultés, ce sont les facultés supérieures, qui sont les facultés dogmatiques, qui produisent et qui dispensent des savoirs dogmatiques sous le contrôle du gouvernement. Et donc, ces facultés supérieures, elles forment l'élite des lettrés, parmi lesquelles elles forment les agents de l'État qui vont être en charge de l'instruction populaire. Et elles énoncent, les facultés supérieures, elles énoncent les canons de l'instruction populaire. Elles font les programmes scolaires, quoi, si j'ose dire. Oui, non, ça, j'ai pas du tout besoin, en fait. Je vous remercie de ne... Merci. Non, là, c'est même... Je peux plus lire mes notes, en fait. Donc, je serais content si ça...
Élodie, il y a un problème technique.
Non, ça va, c'est bien. Merci. Voilà. Donc, le problème, c'est que cette chaîne de transmission du savoir-là, elle est complètement corrompue parce que les savoirs qui sont encodés au sommet sont des savoirs dogmatiques qui sont fondés sur la tradition héritée, sur les autorités instituées, sur la volonté du gouvernement et pas du tout sur le libre usage de la raison. Donc, pour y remédier, ce que propose Kant, ce serait quelque chose comme instituer une faculté inférieure en la dotant, un, de l'entière liberté de critiquer les savoirs dogmatiques au sein de l'université, et deux, en lui conférant le pouvoir législatif de trancher les conflits théoriques qui pourraient l'opposer aux facultés supérieures. Donc en faisant ça, le contenu des enseignements dogmatiques serait progressivement amené à changer. On y enseignerait toujours, sans aucun doute, de la tradition, de la pensée héritée, des dogmes officiels, mais moins, et de moins en moins. Et puis donc ça produirait deux effets. D'une part, ça changerait l'éducation que reçoivent les élites, et d'autre part, ça contribuerait à changer les canons de l'instruction populaire, et donc indirectement et au bout de la chaîne, à changer la manière dont on éduque le peuple. Et donc, ça contribuerait à rationaliser progressivement et peut-être partiellement le contenu de l'éducation. Alors c'est sûr, le procédé n'est qu'indirect, le peuple recevra quelque chose comme une mixture d'instruction dogmatique et de savoir critique, mais en tout cas, ça devrait suffire pour que la classe moyenne dans l'ordre de la connaissance, c'est-à-dire ce que Kant appelle les lettrés, les hommes d'affaires, les techniciens du savoir, ait accès mieux, même si partiellement, aux lumières. Et donc ça, ça pourrait être un élément assez important dans la constitution d'une opinion publique éclairée et dans le fait de lui permettre de jouer un rôle de force politique active dans l'État bien ordonné. Bon alors, ça ne fait pas de Kant un démocrate radical ce que je suis en train de raconter là, mais au moins ça permet de sortir du face-à-face un peu statique entre l'universalité de la promesse d'émancipation et le constat factuel de l'ignorance du peuple et de la nécessité d'introduire la distinction entre... citoyenneté active et passive. Donc le projet de Kant est ambivalent, dans le projet ne résout pas vraiment la tension, il la déplace, il la redouble, mais il ouvre aussi quelque chose comme un chemin vers un éventuel apaisement de la tension, sinon une résolution de celle-ci. Alors moi ce qui m'intéresse le plus ici, c'est que les penseurs vraiment libres, ici, sont compris comme les agents actifs de la substitution des savoirs critiques de gouvernement au savoir dogmatique. Quelque chose comme une avant-garde, en fait. C'est l'avant-garde de la constitution d'une opinion publique éclairée dans la société. Et cette avant-garde, elle est affrontée à la paresse et à la lâcheté des... Qu'est-ce que les Lumières, des savants corporatifs des facultés supérieures et des lettrés agents du gouvernement qui continuent à prodiguer, à recevoir et à prodiguer les enseignements dogmatiques. Alors eux, ça les met forcément dans l'autre camp, en fait. Et donc, le but de la manœuvre, ça va être de les retourner. C'est-à-dire, pour une part, en cherchant à les convertir au libre et au public usage de la raison, et surtout en les soumettant à l'autorité législative des penseurs vraiment libres dans le domaine de la théorie, dans l'université, et en changeant comme ça progressivement les canons des enseignements qu'ils dispensent. Et dans cette lutte, l'enjeu crucial, la mère des batailles, en fait, c'est de conquérir une place forte tout en haut de la pyramide. C'est-à-dire, pour que ça puisse avoir lieu, ce truc-là, et pour que ça puisse être un peu pérenne, il faut absolument que soit garantie une complète immunité politique pour les penseurs vraiment libres. Et c'est cette immunité-là qui va permettre de faire que la faculté inférieure sera un havre pour ces penseurs libres et aussi une base inexpugnable à partir de laquelle ils pourront rayonner au cœur du système et transformer progressivement la chaîne de fabrication et de diffusion des savoirs. Mais alors pour ça, pour y parvenir, il faut obtenir la neutralité, au moins la neutralité bienveillante du gouvernement, sans qui rien ne peut se faire. Et là, c'est un peu le paradoxe de tout projet d'émancipation, c'est qu'il faut mettre le pied dans la porte, quoi. Donc la première chose à faire, c'est d'essayer d'obtenir la bienveillance paradoxale du maître. Et ça, c'est ce qui explique que dans tout le texte du conflit des facultés, Kant va passer des pages et des pages à nous expliquer que c'est dans l'intérêt du gouvernement de faire ça et que le gouvernement a absolument intérêt à libérer les penseurs libres parce qu'ils sont tellement libres qu'en fait ils sont impuissants et qu'ils sont tellement impuissants qu'en fait ils ne peuvent pas lui nuire. Bon, moi, je trouve l'argument pas du tout convaincant, c'est-à-dire il me paraît complètement évident qu'un gouvernement autoritaire a beaucoup à perdre en conférant une immunité aux penseurs vraiment libres, et surtout en leur conférant le pouvoir de légiférer les conflits théoriques qui les opposent au savoir dogmatique. C'est-à-dire, vraiment, je ne comprends pas comment Kant peut imaginer qu'on y croit à ce truc-là. Enfin, je pense donc quelque chose comme une bonne dose de mauvaise foi là-dedans. Mais après tout, cette bonne guerre, Kant va quand même essayer de prouver au gouvernement que ça ne devrait pas au moins directement lui nuire et que même il pourrait en retirer du prestige parce qu'après tout, des penseurs vraiment libres, vous voyez, ça fait chic à l'université. Donc, que c'est bien, on passe pour un gouvernement libéral. Et ce qu'il ne dit pas, et c'est qu'en fait, pour que ça lui nuise pas du tout et que ça lui soit vraiment utile, bah, il faudrait entre-temps que ce gouvernement soit devenu un gouvernement non pas autoritaire mais républicain, et que c'est précisément cette transformation-là que le dispositif institutionnel qu'il essaye de fabriquer à l'université, c'est à ça que ça sert et c'est ça la visée en fait. Alors voilà, ça c'est en deux mots le projet dans le projet. Au passage, on peut se poser la question de savoir si c'est politiquement judicieux. Est-ce que vraiment les penseurs vraiment libres sont l'avant-garde de la réalisation de l'autonomie politique? Est-ce que c'est intéressant d'avoir une base révolutionnaire à l'intérieur même de l'université? Est-ce que pour faire ça, il faut une faculté inférieure? Bon, je pense que Marx aurait plutôt suggéré de commencer par en finir par la subordination dans la sphère privée. Rousseau aussi, hein, il était plutôt pour l'abolition du salariat, lui. Et je pense que Trotsky aurait jugé beaucoup plus utile d'infiltrer l'armée. Voilà, donc moi je vais pas me poser cette question-là. Moi, ce qui m'intéresse dans l'affaire, c'est pas d'évaluer la pertinence politique à l'époque du projet de Kant. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que je trouve complètement fascinant le parallélisme entre ce projet dans le projet et le projet dont je parlais au début, avec le chiasme, politisation de la source du droit et neutralisation de son fonctionnement. C'est-à-dire, de même que la diffusion de la volonté générale dans la population s'opère par l'articulation de la politisation de la source du droit et de la neutralisation de son application, ben de même, le conflit des facultés articule la souveraineté législative de la pensée libre dans la production des savoirs avec le contrôle strict de l'appareil en charge de sa diffusion, c'est-à-dire les agents de l'État en charge de l'instruction populaire. Et d'ailleurs, les deux batailles sont complètement liées, puisque c'est par la prise de contrôle du système éducatif qu'une opinion publique éclairée peut émerger comme force politique capable de guider effectivement l'activité législative d'un pouvoir législateur, donc on espère qu'entre-temps, il sera devenu celui le représentant élu du peuple. Et donc, il me semble que c'est non seulement il y a un parallélisme, mais c'est un dispositif, un élément clé du... Le projet dans le projet est un élément clé du projet lui-même. Au fond, il joue deux rôles distincts, un rôle de transition, éclairer le peuple, ça je l'ai dit, mais aussi un rôle de constitution de l'opinion publique éclairée, qui elle-même est une force politique complètement nécessaire au fonctionnement de l'État bien ordonné. Alors maintenant je vais conclure, mais je vais être long dans les conclusions, donc quand quelqu'un dit « je vais conclure » après avoir déjà été trop long, tout le monde est plein d'espoir, mais en fait il y a deux types de conclusions, ça va encore durer un petit moment. J'ai le temps, pardon Élodie, je dis ça, mais oui, ça va. Et en fait, il y a deux sortes de conclusions, il y a les ésotériques et les exotériques, si j'ose dire. Donc là, je vais quand même d'abord conclure sur Kant, et puis après, je ferai les remarques personnelles. Donc premièrement, conclusion de ça, le conflit des facultés tel que Kant le conçoit n'est certainement pas un conflit entre des disciplines académiques. Si on entend par le conflit des facultés, la faculté de droit, la faculté de philosophie, alors ça ne va pas. D'abord, ce qu'il faut se rappeler quand même, que la faculté inférieure, ce n'est pas la faculté de philosophie au sens d'un département de philosophie aujourd'hui, c'est la faculté qui rassemblerait toutes les sciences qui se fondent exclusivement sur l'usage de la raison pure et dont c'est l'exclusive finalité. Alors ça comprend l'histoire, les mathématiques et ce qu'on appellerait aujourd'hui les sciences sociales et tout ça. D'ailleurs, au passage, je retiens, je crois que c'est de Macheret, cette idée que faire cohabiter l'histoire et la philosophie dans la faculté inférieure, ça pose les jalons d'un futur conflit dans le conflit, si j'ose dire, qui est celui des écoles historiques et philosophiques et qui va se déclencher au cours du 19e siècle et qui continue à avoir une certaine validité, voire même une validité certaine aujourd'hui. Non seulement ce n'est pas un conflit entre des disciplines académiques, mais c'est, à mon avis, pas un conflit seulement épistémique entre le droit des juristes et le droit des philosophes. Parce que, c'est sûr, le conflit des facultés, l'introduction du conflit des facultés, suppose la constitution d'un droit des philosophes à côté du droit des juristes. Mais le but, ce n'est pas de substituer le droit des philosophes au droit des juristes, c'est de transformer indirectement le droit des juristes en savoir critique de gouvernement, c'est-à-dire de transformer progressivement la science du droit des juristes en disant science du droit des juristes éclairés, ou encore en science du droit des juristes critiques. Et donc, ce n'est pas un face-à-face entre le droit des philosophes et le droit des juristes, c'est plus compliqué que ça, c'est irréductible à un simple conflit épistémique. Et puis c'est irréductible à un simple conflit épistémique parce que c'est évidemment un conflit entre deux dispositifs de savoir-pouvoir pour parler à la Foucault. C'est-à-dire, il y a le binôme prince héréditaire légiste et il y a le binôme légiste dont le savoir, la production des savoirs est pilotée par les savants corporatifs des facultés supérieures et il y a le binôme représentant élu opinion publique éclairée, dont le dispositif de production des savoirs est piloté par les penseurs vraiment libres, c'est-à-dire en partie par les savants corporatifs de la faculté inférieure. Donc en fait, c'est un conflit qui est part en part politique, et plus exactement, c'est un conflit politisant. D'ailleurs, c'est un conflit qui va chercher à politiser la production de la science et de l'enseignement à l'université. Alors ici, j'utilise le terme de politisation au sens de Castoriadis, dans un sens assez précis, et juste je fais une incise, pour Castoriadis, nous héritons pour une très très large part, pour 99%, 99,9% de ce que nous pensons et de ce que nous faisons procède, est hérité. Et ce dont nous héritons se présente généralement à nous comme naturel et comme indisponible. C'est-à-dire, par exemple, il ne vient à l'idée d'aucun parmi nous, j'imagine, de vouloir changer à lui tout seul les règles de la grammaire française. Mais il est vrai que dans certaines sociétés, nous nous reconnaissons aussi la capacité de changer librement certaines de ces institutions et même d'en imaginer de nouvelles. Et la sphère où s'exerce cette capacité créative d'autonomie, comme auto-indétermination, nous l'appelons le politique. Et dans une société, il arrive que la frontière se déplace et il arrive que ce dont nous héritons et que nous considérons comme complètement naturel, et bien tout d'un coup, nous le reconnaissons comme créé et comme susceptible de transformation volontaire, explicite, lucide. Alors quand il y a un de ces bougées de frontières, ben on parle de politisation. Ici, politisation veut donc dire élargissement du domaine de l'autonomie comme capacité d'auto-indétermination. Et il me semble que c'est très précisément ce que fait l'invention du concept de conflit des facultés. C'est une politisation de l'université comprise comme extension de la sphère du penser et de l'agir autonome, grâce à quoi les savoirs qui jusque-là étaient exclusivement soumis au dogme de la pensée héritée, inscrits dans des traditions elles-mêmes héritées, et par ailleurs aussi soumis à la censure du gouvernement, vont désormais faire l'objet d'un conflit. Alors, je laisse entièrement de côté l'évaluation de la justification de la pertinence ou de la cohérence du projet, Serge, je l'ai déjà dit, mais il me semble que là, il y a quelque chose de vraiment important, c'est que le conflit des facultés, ça politise et c'est fait pour ça, en fait. Et je vais maintenant conclure vraiment avec quelques remarques, disons, exotériques. La première, c'est que le conflit des facultés, nous héritons du conflit des facultés, et ce dont nous héritons, c'est précisément d'un conflit. Et ce que ça veut dire, c'est que Kant le promeut comme une stratégie explicite de division de l'université et de fragmentation des savoirs qu'elle produit. Et je crois que nous vivons toujours sous le régime de la fragmentation des savoirs du droit. C'est-à-dire, le moins qu'on puisse dire, c'est que la science juridique n'a pas le monopole du savoir du droit aujourd'hui dans l'université en France. Il y a des philosophes, il y a des économistes, il y a des sociologues, il y a tout un tas de gens, il y a de l'évaluation des politiques publiques, et tous ces gens-là pensent être parfaitement légitimes et compétents pour dire ce qu'est le droit, ce qu'il devrait être, etc. Alors moi, je ne crois pas qu'il faille nous en plaindre. En tout cas, je ne vois pas à quelle visée politique pourrait correspondre le désir de réunifier ou de pacifier ce conflit entre les divers savoirs du droit. Une redogmatisation, j'aimerais bien qu'on m'explique ce désir de paix correspond à quelle force souterraine. Ça m'intéresserait beaucoup. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on peut regretter que le conflit se réduise souvent à des conflits disciplinaires, et que les conflits disciplinaires se réduisent souvent à de l'incompréhension, à de l'indifférence, entre les disciplines dont on sait qu'elles ne se lisent pas mutuellement. Mais ça, il me semble que ce qu'on peut regretter, c'est la dégénérescence du conflit. C'est-à-dire ce conflit qui était un conflit important, un conflit entre des dispositifs de savoir-pouvoir, parfois est devenu, de manière un peu microscopique et veule, un simple conflit épistémique. mais il me semble que ça devrait conclure à l'envie de le régénérer et de lui redonner son importance et sa noblesse politique, plutôt que d'essayer de le liquider en le pacifiant. Voilà, alors, la deuxième remarque conclusive, c'est que, évidemment, depuis quand les modalités du conflit ont énormément changé, c'est-à-dire que la science juridique n'est pas tout entièrement dogmatique, les savoirs du dehors ne sont pas tous des savoirs critiques ou des savoirs d'opposition, comme dirait Lorenz Bernstein. À lire beaucoup de mes collègues sociologues aujourd'hui, j'ai même l'impression que ce n'est pas du tout un savoir d'opposition, non, c'est même souvent un savoir proprement stipendié par les organes du gouvernement, et que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'oppose pas. Mais il me semble quand même que le cœur politique du conflit tel qu'il a été théorisé par Kant n'a pas tellement bougé, ni tellement permuté. Donc ici, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par le conflit des savoirs critiques et des savoirs dogmatiques. Et il me semble que la définition qu'en propose Kant est toujours aussi intéressante. C'est-à-dire qu'il y a certains savoirs qui sont dogmatiques parce qu'ils reposent théoriquement sur l'autorité non critiquée d'une pensée héritée et pratiquement sur la volonté des organes du gouvernement. Donc quand on me dit qu'on ne peut pas faire du droit sans citer les arrêts du Conseil d'État, moi je me souviens que le Conseil d'État, c'est un organe du gouvernement et que donc on me demande de considérer que l'objet de la science juridique est actuellement... Non, ça c'est un anglicisme, est en fait dicté par le gouvernement. Et quand on me dit que faire du droit, c'est lire je ne sais quel auteur, eh bien j'en conclus que l'autorité de ces auteurs est plus importante que le libre et public usage de la raison. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que la science juridique contemporaine n'est pas du tout la seule à tomber sous le coup de l'accusation de dogmatisme dans ce sens-là. Et je pense que la faculté de philosophie, d'été fabula narratur, absolument, et que donc les lignes ont complètement bougé. C'est-à-dire que ce n'est vraiment pas la faculté de philosophie contre la faculté de droit. Mais je pense quand même que la ligne de faille, elle est là. Ce qu'il faudrait, c'est faire la carte. C'est-à-dire qu'il faudrait refaire la carte de cette ligne de faille. Ce qui est difficile aussi, c'est que les figures mêmes de l'émancipation ont changé. Elles se disent plus du tout, ou pas toutes, tant s'en faut, sous la forme d'un État bien ordonné, fut-il de forme républicaine. Et d'ailleurs, il faut dire, elles se disent parfois explicitement contre cette forme-là. Et donc, par suite, la carte des savoirs critiques, compris comme la carte des savoirs qui ne s'autorise que du libre usage de la pensée, est certainement plus celle que nous proposait Kant. Enfin, tout de même, il me semble qu'on peut retenir de ça que... une des actualités du projet de Kant, c'est certainement de nous inviter à la plus complète liberté de penser et de s'exprimer au sein de l'université, non pas pour y faire régner la raison pure, parce que, mon Dieu, comme elle a été critiquée, celle-là, mais dans le but d'y inscrire un conflit politique contre les savoirs dogmatiques, un conflit qui opère la politisation de la production des savoirs et de l'enseignement, au sens de l'extension du domaine de l'autonomie, au sens de l'extension de la capacité d'auto-indétermination des savants. Et je ne vous cache pas qu'un tel projet continue à soulever chez moi quelque chose comme de l'enthousiasme. Voilà, je vous remercie.